Lecture des lettres des pères du désert, une émission proposée par Hélène.
Poursuivons ensemble, chaque jour, cette anthologie des lettres des pères du désert. Nous avons depuis quelques mois longuement partagé ainsi avec vous les pensées et les expériences de quelques-uns de ces véritables athlètes du Christ. Antoine du désert, Jean Macaire, Climac, Silouane, Séraphime de Sarov et quelques autres. Aujourd'hui, pour plusieurs jours, nous entrons dans l'œuvre de Jean Cassien, qui naquit probablement en City en 365 et concentra plus particulièrement son enseignement aux moines sur le combat spirituel. L'homme patient vaut mieux que le soldat vaillant. Lorsque le Seigneur, imposant silence aux guerres intérieures, aura délivré cet homme de tous les emportements de la chair, il parviendra à un tel état de pureté que la confusion s'évanouira, qui lui donnait de l'horreur pour lui-même, je veux dire pour sa chair, durant qu'il y était combattu, et qu'il commencera d'y prendre ses délices comme dans un tabernacle très pur. Le mal ne viendra pas jusqu'à lui. Nul fléau n'approchera de sa tente. Par la vertu de patience se trouvera rempli l'oracle prophétique. Le mérite de sa mansuétude lui aura donné la terre en héritage et plus encore, il goûtera les délices d'une paix débordante. Car il n'est pas dit « ils goûteront les délices de la paix » mais d'une paix débordante. Il paraît évidemment par là que le remède le plus efficace pour le cœur humain c'est la patience. Selon le mot de Salomon, l'homme doux est le médecin du cœur. Ce n'est pas seulement la colère, la tristesse, la paresse, la vaine gloire ou la superbe qu'elle extirpe, mais encore la volupté et tous les vices à la fois. La longanimité, dit encore Salomon, fait la prospérité des rois. Celui qui est toujours doux et tranquille, qui ne s'enflamme de colère, qui ne se consume dans les angoisses de l'ennui et de la tristesse, ni ne se disperse dans les futiles recherches de la vaine gloire, ni ne s'élève dans l'enflure de la superbe, il y a une paix surabondante pour ceux qui aiment le nom du Seigneur, et rien ne leur est une occasion de chute. En vérité, le sage a bien raison de dire « l'homme patient vaut mieux que le soldat vaillant ». Celui qui maîtrise sa colère, que l'homme qui prend une ville. Parlons à présent de la pureté. Le premier degré de la pureté est que le moine ne succombe pas aux assauts de la chair durant qu'il veille. Le second, que son esprit ne s'arrête pas aux pensées voluptueuses. Le troisième, que la vue d'une femme ne l'émeuve pas de convoitise, même légèrement. Chermont reprit. Il paraît bien que vous n'avez pas encore saisi quelle est l'essence de la vraie chasteté. Elle ne se garde bien, croyez-vous, que durant la veille, moyennant l'austérité de la vie. Dans le sommeil, les ressorts de l'âme se détendent et il devient par suite impossible de sauver son intégrité. Non, la chasteté ne se soutient pas, comme vous le pensez, par la garde d'une vie austère. Elle subsiste par l'amour qu'elle inspire et les délices que l'on goûte dans sa pureté même. Tant qu'il reste quelque attrait pour la volupté, on n'est pas chaste, mais continent seulement. Vous voyez donc que le sommeil ne peut nuire à aucun de ceux que la grâce divine a pénétré jusqu'au moelle de l'amour, de la chasteté. Bien qu'ils suspendent alors l'austérité de leur vie, il est prouvé par ailleurs, de façon la plus certaine, que celle-ci nous trahit, même durant la veille. Un vice qui n'est contenu qu'avec peine accordera bien quelques trêves passagères aux combattants. Non pas toutefois la sécurité ni le repos perpétuel qui succède au labeur. Si au contraire il est vaincu complètement par une vertu qui s'insinue jusque dans les profondeurs de l'être, il se tient dorénavant tranquille, sans donner le moindre soupçon de révolte, et laisse son vainqueur jouir d'une paix constante et assurée. Tant que nous éprouvons les révoltes de la chair, reconnaissons que nous ne sommes point parvenus aux cimes de la chasteté, mais que nous restons encore sous le sceptre débile de la continence, fatigués de continuels combats, dont l'issue demeure nécessairement douteuse. Ainsi, la chasteté parfaite se distingue des commencements laborieux de la continence par une tranquillité inaltérable. Telle est en effet la consommation de la vraie chasteté. Elle n'a plus à combattre les mouvements de la concupiscence charnelle, mais elle les déteste d'une horreur totale. Et elle se conserve dans une constante et inviolable pureté. Ce ne peut être là rien d'autre que la sainteté.
Thank you.
Nous allons entrer à présent dans le sens intérieur des mots Judée, Israël et Sion. Heure où la chair cesse de convoiter contre l'esprit pour consentir à ses désirs et communier à sa vertu. Les liens d'une paix solide les unissent l'un à l'autre. Et l'on voit se réaliser en eux la sentence du psalmiste au sujet des frères qui habitent ensemble. Ils possèdent la béatitude promise par le Seigneur. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, quoi qu'ils demandent, mon Père qui est aux cieux le leur donnera. Celui-là donc qui dépasse le degré figuré par Jacob, le supplantateur, s'élève après avoir paralysé le nerf de la hanche, du corps à corps de la continence pour supplanter les vices au titre glorieux d'Israël, son cœur ne déviant plus de sa direction. Le bienheureux David a bien marqué, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ces deux étapes distinctes. Dieu, dit-il, s'est fait connaître en Judée, c'est-à-dire dans l'âme qui doit confesser ses péchés, car Judée signifie confession. Mais en Israël, c'est-à-dire en celui qui voit Dieu, ou selon une autre version, en l'homme parfaitement droit devant Dieu, Dieu n'est pas seulement connu, mais grand est son nom. Puis, David nous appelle vers des hauteurs plus sublimes encore. Il veut nous montrer le lieu même où Dieu prend ses délices. Et sa demeure, ajoute-t-il, est établie dans la paix, c'est-à-dire non pas dans la mêlée des combats et la lutte contre les vices, mais dans la paix de la chasteté et la perpétuelle tranquillité du cœur. Si quelqu'un mérite, par l'extinction des passions charnelles, d'atteindre à cette demeure de paix, poursuivant ses progrès, il deviendra une Sion spirituelle, ce qui signifie tour d'observation de Dieu. Et il sera aussi la demeure de Dieu, car le Seigneur ne se trouve point parmi les batailles de la continence, mais il réside dans l'observatoire indéfectible des vertus. C'est là qu'il ne se contente plus d'émousser ou de contenir, mais qu'il a pour jamais brisé la puissance des arcs, de ces arcs d'où partaient jadis contre nous les traits enflammés de la volupté. Non, vous le voyez, la demeure du Seigneur n'est pas dans les combats de la continence, mais dans la paix de la chasteté. C'est dans l'observatoire et la contemplation des vertus qu'il fait son séjour. Le psalmiste avait bien sujet de mettre les paroles de Sion au-dessus de toutes les tentes de Jacob. Le Seigneur, dit-il, aime les portes de Sion plus que toutes les tentes de Jacob. Il en sera pour nous, comme dans l'admirable vision de Moïse, le buisson de notre chair, enveloppé d'un feu innocent, ne sera pas consumé. Ou comme il arriva aux trois jeunes gens pour qui la rosée de l'esprit écarta si bien la flamme de la fournaise des Chaldéens, que l'odeur du feu n'effleura de son souffle ni leurs cheveux, ni la frange de leurs vêtements. Et déjà dans ce corps, nous commencerons de posséder de quelque manière ce qui est promis aux saints par la bouche du prophète. Quand tu marcheras à travers le feu, tu ne seras pas brûlé et la flamme ne t'embrasera point. Tels sont les divins ouvrages que le Fils atteste qu'il accomplit chaque jour en union avec son Père. Mon Père agit jusqu'aujourd'hui et moi aussi j'agis. Telles sont les œuvres de Dieu que le bienheureux David chante en l'esprit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. C'est d'elle que parle le prophète Amos quand il dit « Il a fait toutes choses, il les change, il change en matin l'ombre de la mort ». Ce sont là en effet les changements de la droite du Très-Haut. Comment donc progresser ? Quiconque se retire de toute conversation inutile, mortifie tout sentiment de colère, toute sollicitude et tout souci terrestre, se contente de deux pains pour son repas quotidien, se prive de boire de l'eau jusqu'à satiété, se borne à 3 heures ou, suivant une autre règle, à 4 heures de sommeil, et cependant ne croit nullement pouvoir l'obtenir par les mérites de son labeur et de son abstinence, mais ne l'attend que de la miséricorde du Seigneur, car sans cette conviction, vains seraient les efforts de l'homme, celui-là n'aura pas besoin de plus de 6 mois pour reconnaître qu'il n'y est pas impossible de l'acquérir en perfection. Voici au demeurant le signe certain que l'on est tout proche de la pureté, c'est que l'on commence à ne l'attendre plus de ses propres efforts. Lorsqu'on a bien compris toute la portée de ce verset, « Si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent ceux qui la bâtissent. On ne se fait point de sa pureté un mérite orgueilleux. Parce que l'on voit trop bien qu'on la doit à la miséricorde du Seigneur et non à sa propre diligence. On ne s'emporte pas non plus contre les autres avec une rigueur impitoyable parce que l'on sait que la vertu de l'homme n'est rien si elle n'est aidée de la vertu divine. » La perfection de la chasteté est que le moine ne soit jamais effleuré par le plaisir mauvais durant la veille et que son sommeil ne soit pas troublé d'illusions fâcheuses. Il y a autant de différences entre tous les hommes que sont éloignés l'un de l'autre les buts où se portent les désirs de leur cœur, c'est-à-dire le ciel et l'enfer, le Christ et Bélial, selon cette parole de notre Seigneur et Sauveur. Si quelqu'un veut être mon serviteur, qu'il me suive. Où je suis, là sera mon serviteur. Et encore, où est votre trésor, là aussi sera votre cœur.
Constituit Dominus, quem constituit Dominus, super familiam suum.